Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Magic Summer. Mon nom est Guillaume, je suis votre animateur. Et pour se joindre à moi en ce 16e merveilleux épisode, nul autre que Renaud, la voix dans le haut-parleur, Giraldo. Salut Renaud, ça va?
Salut.
Écrime, on pensait qu'on avait réglé nos problèmes de son. T'avais même acheté un nouveau micro, mais la technologie fait qu'on peut pas l'utiliser cette semaine. Mais on va passer par-dessus ça, donc ça me fait vraiment plaisir de te revoir. On a eu la chance de se voir à Sherbrooke quand t'es descendu. J'étais bien content de qu'on puisse faire autre chose que juste des épisodes de balado ensemble. C'était le fun de te voir. T'étais pas trop nostalgique quand t'es venu à Sherbrooke, là?
J'étais pas trop nostalgique?
Ouais, c'est ça la question. Ouais, tu sais, quand t'étais à Sherbrooke, là, fallait... Ouais, t'étais-tu nostalgique?
Ben oui, c'était un endroit bien pour vivre à Sherbrooke. Pas que je suis pas heureux à Mont-Laurier, Mont-Laurier c'est une belle ville aussi. Mais disons que c'est un autre genre d'activité sociale ici.
Écoute Renaud, cette semaine, on a je pense un épisode qui va être bien intéressant. J'espère qu'on va réussir à avoir un épisode qui va pouvoir être un espèce de... J'ai une expression anglaise, mais stand-alone. Fait qu'un épisode qui tient à tout seul, qui est comme une espèce de référence. Puis le but, en fait, c'est d'amener les personnes qui sont peut-être des fois familiers, peut-être moins familiers avec l'univers compétitif. Puis je veux faire un peu une espèce de portrait de c'est quoi exactement que on s'attend d'un joueur qui se présente à un tournoi. Parce que en fait, avec les prix PTQ, je pense qu'il y a vraiment une espèce de bonne... différence dans le niveau de préparation de plusieurs joueurs, pis, et ça, pas seulement au niveau de la préparation, par exemple, sur la méta, pis tout ça, mais carrément dans qu'est-ce que ça prend, pis c'est quoi nos attentes comme dans un tournoi, tu t'attends à quoi que ton adversaire va avoir comme niveau de préparation. Fait que mon but, c'est qu'une personne qui écoute l'épisode d'aujourd'hui va être en mesure de comme avoir un peu les grandes lignes de c'est quoi la préparation que tu as à faire un peu avant, puis quand tu es en train de jouer ton PPTQ ou n'importe quel autre tournoi, ben à quoi qu'on s'attend de toi comme joueur. Parce que je vais prendre un exemple, moi-même personnellement, il y a un moment donné où j'étais un peu à la course, puis j'ai décidé vraiment à la dernière minute d'aller faire un GPT, là, un Grand Prix Trial. J'étais arrivé là avec mon deck, puis j'étais vraiment à la dernière minute, là, c'était à peine si les rondes ne commençaient pas, puis là, il fallait que je remplisse ma deck list. Fait que ça, c'est une chose qu'on va pouvoir dire dans l'épisode, c'est-à-dire que quand tu arrives dans un tournoi qui est sanctionné, bien, il faut que tu remplisses ta deck list. Quand c'est un tournoi construit, il faut que tu écrives chacune de tes cartes. Et moi, dans le fond, j'étais à la presse, je voulais pas perdre de temps. Puis là, j'ai regardé mes cartes, mon sideboard était à peu près prêt, pas tout à fait. Puis là, je notais ça, puis finalement, c'était au Griffon à Sherbrooke. Puis là, c'était Philippe Asselin, il me dit: ouais, Guillaume, viens ici. Ouais, ben écoute, t'as comme tes cartes, ça arrive pas. Là. Fait que là, j'avais comme mis trop de land, puis je m'étais trompé dans le nom de certaines cartes, puis ça a fait que j'ai eu un game loss, mettons. J'ai perdu une game. Puis c'était contre Marc Beaulieu. Puis d'ailleurs, ben c'est drôle parce que c'est Marc Beaulieu qui a gagné le dernier PPTQ à Sherbrooke. Donc, un petit salut à toi, Marc. Bravo pour ta performance. Puis en fait, c'est ça. Donc, j'avais eu un game lost. Puis je me dis, ben ça, c'est juste au niveau de la préparation. Ben là, c'est parce que j'étais en retard. Mais aussi, c'est parce que non plus, j'étais peut-être pas conscient de justement, il faut que tu arrives un peu avant pour remplir ta decklist. Fait que, en fait, mon but, c'est justement un peu partir du début. Quand tu arrives à un PPTQ, c'est quoi que tu as à faire? Et pendant les matchs, à quoi qu'on s'attend? Puis aussi, peut-être vers la fin de l'événement, qu'on approche du top 8, un peu c'est quoi tes responsabilités comme joueur? Fait que déjà là, juste en partant, toi, vite comme ça, quand tu arrives à un événement comme, disons, un pré-PTQ, on va se dire que ben là, justement, c'est la saison des pré-PTQ modernes qui est à nos portes ou qui est déjà, en fait, entamée. Qu'est-ce qu'il y a comme préparation initiale à faire? Par exemple, est-ce que tu as besoin d'avoir des protecteurs neufs? Qu'est-ce que je dois faire avant d'arriver à un pré-PTQ? Puis quand j'arrive sur place, c'est quoi les premières étapes dans un tournoi?
Ben, idéalement, là, je vais avoir choisi mon deck au moins la veille. Ça n'arrive pas tout le temps. Des fois, on est indécis, puis ça se passe pas comme ça, mais idéalement, là, je vais avoir choisi mon deck au moins la veille, puis s'il manque des cartes, je vais prévoir d'arriver d'avance pour acheter les cartes nécessaires.
Ouais.
C'est quand même assez important, surtout si tu veux les échanger. Le matin même des tournois, les vendeurs sont occupés, puis souvent, ils ont plusieurs choses à penser, fait que faut avoir la liste des cartes qu'on a besoin. On peut pas se mettre à commencer à fouiller dans toutes les boîtes. C'est une marque de respect aussi, là.
Ouais.
Et aussi, ça permet aussi d'être plus confiant sur son deck, de l'avoir préparé comme il faut d'avance. Et ça, c'est une première chose. Deuxième chose, je préfère mettre des nouveaux protecteurs sur mes decks la veille, puis jouer quelques parties avec, là,
OK.
pas trop pour pas les abîmer, mais genre quand même quelques parties pour qu'ils soient un peu moins glissants, là, t'sais, pour qu'ils viennent quand même, mais tu sais, qu'ils soient un petit
Ouais,
peu,
je vois. Des fois, même si c'est collant, limite, là.
qu'ils perdent un petit peu leur fini glissant, là, juste assez pour qu'ils se brassent bien.
Ouais.
Je fais ça personnellement, j'aime mieux faire ça parce que aussi il y a moins de chances que mon adversaire échappe mes cartes, puis que les cartes glissent un peu partout. Moi-même, là, quand je vais brasser la première ronde, si les cartes sont, les protecteurs sont neuneux,
Ouais.
les cartes glissent, puis en tout cas, c'est désagréable, tu sais, ça peut te faire perdre ta concentration, juste ça.
Ouais, puis
J'ai
puis
déjà, regarde, là, déjà
Ouais,
essayé
puis
de ne pas me gêner
c'est un
parce que je
point dans le
pensais pas
fond.
de rebrasser mon deck.
Non, vas-y.
C'est la pire affaire, là, tu sais, faut pas que tu fasses ça. Fait que, à ce temps, je me mets dans une position parce que
Mais
ça
là
me dérangera pas de rebrasser mon deck. C'était pas dans une partie publique, là, je veux dire ça, là. C'était des sleeves nœuds de Commander, là, puis ça me tentait
c'est un
pas de
point
rebrasser.
que il est pas négligé, c'est important d'arriver dans un tournoi avec des sleeves qui sont quand même en bon état aussi là, tu sais, qui sont pas neufs avec des protecteurs mais, pardon, qui sont en bon état parce que sinon tu arrives puis là tu en as un ou deux qui sont abîmés, puis là si tu n'en as pas de rechange, qu'est-ce que tu fais? Puis pose-toi pas de questions si tu as les sous puis le deck pour te présenter à un événement compétitif, ben paye-toi des nouveaux protecteurs, puis vas-y, t'sais, arrive avec des protecteurs neufs. Puis je trouve ça très sage d'avoir la veille brassé quelques fois, puis les avoir joué un peu avec pour enlever un peu le côté glissant de la chose. Puis moi, c'est quelque chose que, t'sais.
Ah, puis si vous n'êtes pas sûr sur vos protecteurs, là, sur la qualité de vos protecteurs, vous demandez au juge. Là.
Exactement.
Parce que si vos protecteurs sont abîmés d'une certaine façon, qui pourrait porter à croire
T'as
que,
identifié des
même si
cartes.
c'est pas volontaire, là, mais qui pourrait porter à croire qu'il y avait une intention, là, vous pourriez avoir des problèmes avec certains juges, là.
Ouais, c'est ça, parce que c'est pas juste une question de c'est pas un petit caprice, c'est que malheureusement, Magic, c'est un jeu où il y a des gens qui veulent tellement gagner qu'ils finissent par tricher. Puis des fois, c'est dur de juste pour le juge de comme faire la différence entre ah, ok, ben c'est juste que tu avais des protecteurs abîmés ou ah, ben tiens, non, ça tombe que tes quatre copies de Delver sont abîmées dans le coin. C'est comme
Ça donne
pour.
que toutes tes unités de ton main deck sont usées, mais tes sleeves de sideboard, parce que tu n'as jamais joué avec pendant que tu play testais ou quoi que ce soit,
C'est
sont
ça.
neuves.
Sont toutes neuves, ex
Ça,
exact.
c'est quelque chose qu'il faut éviter, là. Si vous brassez, comme moi la veille, là, j'essaie de brasser, mais prendre les sleeves neuves puis brasser les 75 cartes ensemble pour que ce soit usé uniformément.
Excellent. Ouais, c'est un détail, mais sérieusement, je trouve que ça fait partie de ce dont on s'attend d'un joueur qui se présente à un événement compétitif. Puis, pour ce qui est de la decklist, donc de la liste de cartes de ton deck, est-ce que tu la prépares la veille aussi, au sens où tu l'écris, puis après ça, tu as juste à la recopier, ou bien ça, tu la fais
Oui,
sur place pour être
idéalement,
certain
là,
d'avoir.
j'ai décidé de 70 sur 75, je les écris, puis les autres, c'est pas grave non plus s'il y a des changements, puis que c'est rassuré, c'est pas trop grave. Là, idéalement, on est mieux de tenir une decklist très propre, puis qu'il n'y ait pas de changement dessus, mais si vous avez un changement de dernière minute à faire, vous pouvez le faire, là, tant que ce soit très clair. Puis, dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de ne pas préparer sa decklist au moins la veille. Les fichiers pour écrire votre decklist pour un tournoi sont disponibles sur le site internet de Wizards, probablement si vous pouvez, là. Sinon, sur les forums, le lien vers le fichier est disponible. Parce que des fois, le site de Wizards, c'est
Ouais.
un peu compliqué à retrouver l'information en ce moment, là.
Oui, en effet. Oui. Mais ok, parfait. Puis la question du sideboard, justement, parce que Je me rappelle la première fois que j'avais fait un événement compétitif. Moi, je savais pas trop. J'avais préparé semi un sideboard. J'étais allé là avec un deck que je connaissais à peine. J'étais naïf. Puis, j'avais pas préparé vraiment de sideboard plus que, mettons, je pense que j'avais 10 cartes que j'avais préparées. Puis là, il m'a dit oh, non, ça te prend 15 cartes. J'avais pas trop. J'avais mis n'importe quelle carte. Il me semble qu'il y a eu un changement là-dessus. Puis honnêtement, je suis même pas certain. Fait que, est-ce que tu le sais, c'est quoi la règle maintenant avec le sideboard? Est-ce que ça prend absolument les 15 cartes ou est-ce que.
Non, c'est ça. Maintenant, ça prend entre 0 okay, et 5 cartes. Même durant les parties, tu peux rajouter des cartes de ton sideboard sans avoir à enlever de cartes mm-hmm.
C'est
pas nécessairement.
Tant que le total est toujours le même et qu'il y a au moins 60 cartes dans ton deck, dans le fond, c'est correct.
Oui, okay. C'est ça. Qu'il y a au moins 60 cartes dans ton deck. Ça, ça a été fait pour changer là, certaines. Situation où est-ce que les gens avaient des game loss parce qu'ils présentaient un deck de 61 cartes parce qu'ils oubliaient dans le game mm-hmm. de dans le même deck là.
Ouais, ouais,
c'est ben, ils sideboardaient puis ben
ils oubliaient
pas une situation comme
ouais je pense que ça c'est bien logique
on s'attaquait là pour pas qu'il y ait une intention de tricher parce qu'il n'y a pas vraiment d'avantage à avoir plus que 60 cartes dans ton deck.
Non, effectivement.
Des fois peut-être oui, mais il faudrait vraiment là, aller dans le fin calcul pour savoir là, quel avantage.
Ouais, ouais, c'est sûr. Non, techniquement, c'est un désavantage d'avoir plus de cartes, là, techniquement. OK, cool, parfait. Fait que là, on s'entend, on arrive au pré-PTQ, on a fait notre decklist la veille, on a nos sleeves qu'on a brassés quelques fois, on a pris quelques mains, on a joué un petit peu avec, juste assez pour dire qu'ils sont pas trop glissants. On arrive à l'événement, on s'inscrit avec nos numéros DCI. Si on n'en a pas, ils nous en créent un sur place, fait que ça, c'est pas trop un problème. Et là, on attend et à ce moment-là, est-ce que tu as autre conseil ou bien là, on attend, on a notre pairing puis on sait contre qui on va jouer puis on s'assoit à la table pour notre premier match. Donc, bon, entre l'inscription puis le premier match, il n'y a rien à part arriver à l'heure pour son match parce que je pense qu'on peut avoir aussi un game loss quand on est en retard à notre
match. Arriver à l'heure au tournoi aussi, c'est vraiment important.
Aussi.
Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui appelle pour dire « Ah, ah, attendez-moi, là, je finis mon déjeuner au plus longtemps. »
J'arrive.
Je suis en route, ou quoi que ce soit. C'est une situation où est-ce que les gens peuvent attendre. Là. Il y en a d'autres où est-ce que vous allez avoir une émotion.
Ouais, je pense que...
Puis les gens n'aiment pas ça de faire dire « Ah, ben, on attend. Il y a quelqu'un qui va arriver, là. » Dans des tournois du mercredi soir, par exemple. Là,
ouais, c'est ça, on attend parce que lui est en retard et il va arriver dans 4 minutes. Là.
On va attendre. Là. La personne, ça fait chier tout le monde pareil. Là. Il y a 15 personnes qui t'attendent. Là.
Oui, oui.
Frustrant. Hein.
Ouais.
Tu t'appelles pour dire que tu vas être là à l'heure et que finalement tu t'en sors, c'est encore pire.
C'est moins.
C'est parce que c'est les gens disent ah, il va arriver, puis là, finalement t'arrives comme vous êtes en retard. Là.
Oui.
Puis je pense que c'est une responsabilité aussi des organisateurs. C'est ça.
Ça, c'est pas bon pour ta réputation de joueur.
De faire respecter l'heure. Mais, soyez pas celui qui arrive en retard, puis qui demande une dérogation, puis qui demande, puis qui met la pression sur l'organisateur du tournoi pour retarder son tournoi. Ça place l'organisateur dans une situation difficile. Là. Face à vous, puis face aux autres joueurs. En plus, si vous avez eu en temps, vous ne pouvez pas faire de joke grivoise avec Nicolas Bellaire en attendant.
C'est vrai, on ne pourra pas faire ça. Je pense que faut se donner un nouvel objectif. Il faut parler de Nicolas Bellaire à chaque épisode de Magic 101.
Oui,
je trouve que c'est bon. Faut qu'il soit dans chaque épisode. Je trouve que c'est important. Fait que va falloir qu'on trouve. Fait que là, c'est les blagues grivoises de Nicolas qui font partie de notre épisode. C'est ça. Ensuite, il y a toute la partie là, de brassage de cartes qui semble être un peu comme ah, je brasse mes cartes puis c'est beau. Mais pour moi, il y a comme quelque chose là, d'important à Magic. C'est important de prendre le temps de bien brasser ses cartes. Faut pas exagérer non plus là, puis être celui qui en finit plus. Si ma mémoire est bonne, la règle écrite, c'est qu'il y a 3 minutes qui peuvent être accordées à la brasse de tes cartes, dans le fond. J'avais lu quelques trucs parce qu'à un moment donné, j'avais des ambitions de devenir juge, puis j'ai décidé de laisser faire. Là, mais puis il me semble que c'était ça, là, la règle pour les événements sanctionnés. Donc, la règle de 3 minutes. Et ayez pas peur de brasser vos cartes. Soyez pas gêné que vous voulez brasser vos cartes. Des fois, l'adversaire nous fait sentir là, que ah ouais, dépêche, j'ai hâte de jouer. Mais tu sais, je veux dire, ça fait partie du jeu. C'est important que votre pile soit bien aléatoire. Fait que prenez votre temps pour bien brasser. Puis prenez le temps.
Il y a eu plusieurs disqualifications et suspensions de DCI à cause de gens qui brassaient de manière particulière. Fait que regardez votre adversaire dans les yeux, regardez pas vos cartes, regardez votre adversaire dans les yeux pour voir qu'est-ce que lui fait.
Ben oui. Sinon, vous regardez.
Évidemment, regardez pas ses cartes à lui, là, mais regardez-le. Regardez son visage.
Oui, exactement. Et tu regardes ton adversaire. Il ne
sort pas une main de départ dans l'arrière de sa chemise ou qu'il ne regarde pas les cartes en dessous pour savoir s'il met des laines sur le dessus de votre deck pendant qu'il brasse votre deck.
Oui, exactement. Parce que ça, c'est l'autre chose.
Au plus haut niveau de jeu. Puis, ça ternit l'image du jeu, bien entendu. Puis, mais c'est aussi frustrant parce que ça. C'est évitable, là.
Ben oui, vraiment. Là. Puis, tu sais, c'est ça. C'est comme une fois que toi, tu as tout fini de brasser tes cartes, que bon, ça, tu sens que c'est bien aléatoire, tu présentes tes cartes à ton adversaire, et lui, il a la possibilité de couper ou de brasser également. Puis vous, quand on vous présente un deck, moi, je trouve que c'est important de soit couper ou brasser. Je sais pas, on dirait que ça fait partie un peu de la politesse du jeu. Donc, si votre adversaire vous présente votre deck, pensez pas que c'est gentil de pas couper ou de pas brasser. C'est comme, soyez pas gêné, prenez la carte, puis allez-y, prenez ces cartes, puis brassez-la. Ça fait partie du jeu, puis vous représentez le deck ensuite. Ça fait partie du jeu de Magic, puis c'est quelque chose qui, pour moi, il n'y a pas de gêne à avoir à brasser le deck de l'autre.
Vous devriez brasser le deck de votre adversaire. Pas simplement une coupe. Là.
Au-delà de juste
vraiment brasser.
OK. Bon, voilà. Parfait. Donc là, ça, c'est fait. Dans le jeu, il y a tellement de choses. Écoute, on pourrait aller dans le détail, mais j'aimerais ça aller plus en superficie pour cet épisode-ci. Puis si on sent qu'il y a des sujets qu'on veut approfondir, on le fera dans d'autres épisodes. Lorsqu'on joue, moi j'ai remarqué une bonne différence entre, par exemple, si on joue le vendredi soir avec ses amis, avec une petite bière et dans un tournoi, il faut être un peu plus précis avec les phases. Et je vous dirais, même qu'il y a certaines personnes qui disent, par exemple, en anglais souvent, mais draw avant de piger, parce que, ou en pigeant, puis ils disent draw, ils vont dire upkeep, parce que des fois, la priorité change de main, et à un niveau compétitif, il faut laisser la chance tout le temps à notre adversaire de répondre à ce qu'on est en train de faire. Fait que d'annoncer les phases comme ça, c'est quelque chose qui est quand même utile. Surtout, le plus important, c'est d'annoncer la phase d'attaque. Ça va peut-être paraître banal pour plusieurs joueurs qui se disent ouais, oui. Mais il y a certains joueurs qui, mettons, arrivent à leur premier PPTQ, qui ne savent pas trop, puis quand ils jouent avec leurs amis ou avec leur cercle de collègues joueurs, ils ne vont pas annoncer la phase d'attaque, puis souvent, ça va donner des situations un peu comme ambiguës. Donc, pour moi, ça, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve qu'en compétitif, c'est quand même important d'annoncer les phases pour permettre à la priorité d'être quand même bien respectée.
Oui, j'ai déjà vu un tournoi avoir un délai de 40 minutes. Parce qu'il y avait une situation où est-ce que le joueur n'a pas vraiment annoncé sa phase d'attaque.
Ah ouais, OK.
Puis il a tapé ses créatures. Puis,
le l'autre a dit « Attends, attends, avant que tu attaques, je voulais faire. »
Non, puis c'était pas clair, là. En tout cas, de démêler tout ça, ça avait pris 40 minutes pour savoir si la personne pouvait prendre avec Olivia, le Thunder Mode l'autre, qui était rendu tapé, mais il voulait pas l'avoir tapé parce qu'il voulait bloquer l'autre créature.
Mm-hmm. Oui, exactement, c'est ça. Fait annoncer la phase d'attaque, là.
Non, c'est avant que tu déclares tes attaquants, dans le beginning combat. Mm-hmm. L'autre, il a dit, ouais, mais mes créatures sont déjà tapées. Oui, mais tu m'as pas laissé le temps.
Oui, exactement, c'est ça. Cette phase-là, c'est la plus importante, je trouve. Les autres, il y a toujours moyen de moyenner, mais la phase d'attaque, c'est vraiment bon de la déclarer.
Jouer en moderne, contre un deck bleu, si tu ne déclares pas ton prospect, tu te places dans une situation où est-ce que... Si tu ne déclares pas ton prospect et que tu joues tout de suite ta land, là, c'est un...
Oui, exactement. Ton Vendilion Click. Oui, c'est ça. Il y a plein de situations.
Pour avoir Vendilion Click, assez facilement.
Exactement.
Pour avoir Sunny Isle Charm, qui fait discarder une carte en instant. Il peut avoir... Ça existe, là, c'est pas très joué, là, mais
Oh oui.
ça existe dans le format. Puis Corrigan's Command aussi maintenant, qui fait discarder une carte en instant. Des effets un peu rares, mais ça peut être important de déclarer ton draw step.
Absolument. Comme ça, l'autre.
C'est important de prendre son temps entre chaque.
Puis.
Faut pas virer fou puis donner 10
Non,
secondes.
non, mais c'est ça, donner le temps aussi à l'autre de réagir. Souvent,
Il y a quelque
on.
chose à se passer, la personne va le faire, puis probablement qu'elle avait déjà prévu de le faire de toute façon.
Oui, exactement. Donc, ça, c'est une chose. Puis là, tu touches un point intéressant. Bon, tu dis c'est important de prendre son temps. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'un match de Magic, souvent, on anticipe beaucoup puis on veut jouer quand même rapidement. Puis ça, c'est une bonne chose. Je trouve qu'il faut que le jeu se déroule à un bon rythme. Parce que à l'autre extrême, on prend trop de temps, puis là, ça, c'est peut-être une autre chose auquel il faut penser, c'est que les matchs en compétitif, évidemment, sont chronométrés. C'est donc dire que, et le temps est partagé. C'est pas comme sur Magic Online où ils peuvent comme chronométrer avec les priorités. En réel, on ne peut pas faire ça parce que la priorité se promène trop et c'est difficile de savoir le temps de qui est en train de s'écouler. Donc, c'est du temps partagé. Et il y a certaines personnes qui se plaignent qu'il y a des joueurs qui. Il y a comme la faute là, en anglais qui s'appelle slow play, donc de jouer trop lentement. Puis ça, c'est une fine ligne qui est difficile à déterminer, je trouve. Comment on fait pour éviter, mettons, comme joueur. Une situation où est-ce qu'on serait mis en situation de slow play. Puis si tu veux un peu nous définir pour toi, c'est quoi du slow play? C'est quoi cette offense-là finalement là? Comment qu'on peut reconnaître un joueur qui slow play? C'est un sujet
Ben,
difficile, là, je
si
conscient.
on pense que notre adversaire prend trop de temps, on doit d'abord lui demander de prendre une
OK,
décision.
ouais.
C'est sûr qu'il faut lui laisser un délai raisonnable pour passer à son tour, là, mais souvent, les situations comme ça de slow play vont arriver où est-ce qu'il y a peut-être une ou deux cartes en main. Puis
Ouais.
là, à ce moment-là, si on faut pas être gêné d'appeler un juge.
OK, ouais.
Puis le juge, lui, il va voir l'information que toi, à laquelle tu n'as pas accès. Puis bien souvent, ben, s'il voit qu'il y a deux landes dans ses mains, ben, il va lui dire vraiment faut que tu prennes une décision maintenant.
Ouais,
T'sais.
OK.
Il va pas le faire tout de suite parce qu'il faut pas qu'il révèle l'information, mais
Il va dire
le
que c'est le temps de
juge
prendre une décision.
va savoir si l'autre est en train d'essayer de gruger du temps sur la clock avec l'information qu'il est capable d'avoir que toi t'as pas.
Puis avant d'aller au
Puis à partir de ce
juge.
moment-là, il pourra prendre une décision par rapport à slow play ou même pire, stalling s'il y a une pénalité plus grave, là. Stalling, c'est de disqualification. En fait, c'est une disqualification.
OK.
Slow play, c'est juste game loss, je
Ouais,
crois.
je pense que oui. Puis donc
Match loss?
ouais, match là. Puis sauf que donc toi mettons les étapes quand tu te rends compte que là ton adversaire commence à prendre tu as l'impression qu'il prend trop de temps mettons type tour 1 il pige son pige il met un land, puis là, il pense puis là, il attend puis là il passe le tour sans rien faire mais ça y a pris un bon tu sais quand même du temps tu OK bon ça va mais si tu te rends compte à répétition qui est lent tu lui mentionnes c'est quoi tu fais s'il te plaît j'aimerais ça qu'on essaie d'accélérer le rythme parce que j'ai peur qu'on ait pas assez de temps, quelque chose comme ça. Puis si tu vois qu'il n'y a pas de changement, là, tu appelles un juge ou que. Tu sais, moi, ce serait un peu ma façon de faire, là. Personnellement, j'ai.
Ben non, mais à chaque tour, on peut s'attendre à ce que la personne prenne un 15-20 secondes pour analyser la situation puis prendre l'information. Par contre, si tu es dans une phase d'attaque, que tu décides de tes attaquants, que lui a un bloqueur puis une carte en main, parce qu'il y a des situations là, comme ça,
Plus précise, ok, ouais.
puis qu'il prend trop de temps pour décider s'il bloque ou pas, puis pour. Souvent, la personne n'a même pas de mana.
Ouais.
Là, ça peut
Ouais.
être bon de dire, regarde, tu prends une décision maintenant.
Ouais, ça, puis je pense que rendu là, faut pas avoir peur d'avoir l'air méchant,
Puis
puis
si
comme.
c'est répétitif, ben là, appelez un juge. Le juge va regarder la situation. Puis s'il y a quelque chose, le juge lui-même va lui dire de prendre une décision. Puis s'il prend trop de temps encore, il va avoir une pénalité en conséquence.
OK, excellent. Puis sinon, pendant le match, c'est ça, c'est beaucoup, c'est d'être un joueur responsable, je trouve. Il y a la responsabilité des triggers. Ça, c'est toutes des choses que je pense qu'il faut, comme joueur, un peu se savoir là, que c'est vous qui êtes responsable de votre jeu. Puis l'autre n'est pas méchant quand il dit non, tu n'y as pas pensé. Tu sais, par exemple, t'oublies le trigger de Exalted. On va dire que tu attaques à une créature, puis tu avais une créature qui était Exalted. Là, tu t'attaques, là, l'autre, il bloque. Là, le dégât est fait, mettons. Puis là, tu dis, ah, ben, 3 sur ta créature. L'autre fait, OK, d'accord. Puis là, tu dis, ah, non, c'était 4, il y avait Exalted. Ouais, OK, ben là, tu m'as dit 3. Fait que, tu sais, c'est comme, l'autre est pas méchant quand il dit, non, t'as annoncé 3, t'avais manqué ton trigger, tu sais.
Ça,
c'est normal à un niveau compétitif parce que, moi, je vais continuer à le dire, Magic, c'est un jeu d'erreur. C'est un jeu où est-ce que c'est tellement complexe, justement, que l'autre, l'adversaire et vous-même, vous allez faire des erreurs et c'est comme ça que la game se joue, c'est comme ça que le jeu se gagne. On essaie d'être celui qui va faire le moins d'erreurs techniques, qui va être le plus précis, qui va faire les meilleurs choix. Et quand l'autre fait une erreur, même s'il s'en rend compte un petit peu trop tard puis qu'il a annoncé ses triggers, ben c'est comme ça. Quand on est à un événement compétitif, l'autre, c'est pas un méchant garçon parce qu'il dit non, tu avais annoncé tel trigger. Acceptez vos erreurs, faites t'as raison, puis c'est tout, puis la prochaine fois, je vais pas l'oublier, mon trigger. Donc, ça, moi, je trouve que ça prend une attitude d'aussi de comme, OK, je suis conscient que je suis un événement compétitif, puis l'autre va peut-être, si je mets une créature en jeu, que je tape mon mana, je fais, ah non, c'est pas elle que je voulais jouer, c'est l'autre, ben, regarde, c'est parce que t'as joué cette créature-là, là. Tu sais, c'est comme, moi, là-dessus, je trouve que c'est, vous pouvez, vous, comme joueur, décider d'être plus conciliant, faire, OK, ouais, pas de problème, je change de créature, mais moi, je trouve que il faut respecter si on fait face à un joueur qui est plus, disons, by the book, puis qui appliquent les règles comme elles sont censées être appliquées, même qu'à la limite, c'est comme ça que moi, je préfère que ça soit joué. Tu sais. Je ne sais pas pour toi, là, mais moi, j'aime mieux jouer avec quelqu'un qui est
plus... Non, clairement, j'écoute, là, mais je peux pas être contre tout ce que tu as dit.
Ouais, excellent. Donc ça, c'est, je pense que c'est bien important, honnêtement, là, parce que ça arrive trop... Tu sais, mettons, tu vois un pre-release... Bon, c'est un avant-première. Là, le monde est là et à minuit. On boit du café, du Red Bull, puis des chips, puis on s'amuse. Tu sais, on peut être plus conciliant. Tout le monde découvre les cartes, pas de problème. Mais tu arrives à un PPTQ où là, il y a un juge niveau 2 qui est là. Les enjeux sont plus élevés. Ben Magic, c'est un jeu d'erreur. Puis si l'autre fait une erreur, ben soyez pas gêné de dire « t'as fait une erreur, c'est ça qui est ça ». Tu sais, moi, c'est comme ça que je pense que le jeu doit être joué. Right. Fait que, donc, pendant le match, écoute, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, mais je pense que ça fait quand même un bon petit tour de pendant un match de Magic, qu'est-ce qui se passe. Mais oui.
On a parlé de brasse, de brasser les cartes, ouais. Puis de. Mais pour déterminer la personne qui commence,
ouais.
S'il vous plaît, entendez-vous avec l'autre sur ce que vous allez lancer. Oui. Vous prenez pas la décision de votre côté de lancer un des 20 dont les chiffres se suivent.
Ouais.
Unilatéral.
Mm-hmm. Ah, c'est intéressant.
Entendez-vous avec votre adversaire sur la façon de déterminer la personne qui va commencer.
Ouais, genre, tu dis.
Il y en a que ça agace de voir un des 20 spin down, là, mm-hmm. comme de Fat Pack,
ouais.
Être lancé pour déterminer qui commence.
Mm-hmm.
Pour diverses raisons. Là.
Ouais, ouais.
Peu importe. Ils ont leurs raisons. Puis. C'est achalant.
Oh oui, ben oui.
C'est achalant une fois que c'est lancé, puis qu'il y a un résultat qui est connu, tu sais.
Ouais.
De dire non, je voulais pas lancer ça.
Ouais, c'est ça, exactement.
Je veux, parce que, X raison, je pense que c'est plus facile de pratiquer des lancers avec un débat qui. Dont les chiffres se suivent qu'un des 20 qui les façons aléatoires, ou peu importe.
Ouais, puis t'as moins de chances qu'il y ait, mettons, une nulle, puis, mettons, avec 2 des 6, t'as plein de combinaisons qui font, mettons, 9, tandis qu'avec un des 20, ben, t'as une combinaison qui fait 9, c'est 9. Moi, je trouve que si Magic Online, c'est 2 des 6, moi, c'est souvent ça que je propose. Je fais, est-ce que 2 des 6, ça te va? Ouais, ok, parfait, on lance les dés, puis.
Peu importe, ça pourrait être croche-papier-ciseaux,
ouais. Ouais, effectivement.
Mais entendez-vous avec votre adversaire avant de lancer le dé.
Ouais.
Une fois que c'est lancé, là, c'est très malaisant de dire non, je ne vais pas lancer ça, puis ce que tu as fait là, c'est
ouais. Un peu là. Ouais, puis je suis content que tu m'aies ramené au début du match.
C'est important de respect de demander.
Ouais, ça c'est très bon point. Puis je suis content que tu m'aies ramené justement au début de la partie, parce qu'il y a un autre truc qui, je pense, qui est. peut-être méconnu.
Salut votre adversaire aussi.
Hein? Oui, le saluer. Bonjour. On va jouer ensemble à Magic. C'est... Parce qu'à une certaine époque, en plus, les triggers étaient partagés. Là. Fait que c'était encore plus un jeu à deux là, quand les deux partageaient les triggers. Mais c'est le fait de... Comment... Tu sais, pour tenir la vie, justement, souvent, on voit des gens tenir la vie avec les D20. Là. Ça, c'est une chose. Moi, je pense qu'à un niveau compétitif, c'est mieux d'avoir le...
C'est pas mieux, Guillaume. C'est essentiel.
Oui, c'est ça. C'est essentiel de tenir, en fait, à la main, donc avec papier crayon, pas avec le D20, la vie. Donc, et aussi, c'est que c'est la responsabilité des deux joueurs de suivre...
Amener des tokens soldats.
Oui, aussi. Okay. Ouais,
amenez-en pas juste un, amenez-en au moins trois.
Oui, ça, c'est bon,
minimum.
Ça.
Minimum.
Ouais, surtout si vous jouez de Jeskai Token.
Faites pas, si vous avez des cartes qui créent des tokens, amenez des tokens en conséquence.
Oui, puis c'est ça, la vie...
Mettez pas un dé, parce qu'on sait pas s'il est tapé ou non, le dé. Ça, c'est vrai.
C'est une vraie chose. Oui, exactement. Moi, tout... vraiment.
Dans le milieu d'un match, c'est désagréable. C'est sûr que en limité, c'est pas pareil, parce que t'as pas...
Non, exactement. Mais en construit, on s'attend que tu aies assez de tokens pour tes
pile. Un deck construit, là, c'est la moindre des choses que d'avoir tes propres tokens.
Absolument.
Puis il y a des moyens de faire un bon token personnalisé. Par exemple, quand on avait... Oui, je me souviens, Philippe Asselin, on avait fait un token de Guy Stop-Saint-Trap, de l'ordre de Guy Stop-Saint-Trap. C'était Sœur Angèle. C'était la face de Sœur Angèle sur nos tokens d'âme. Les tokens de Ring Ring Souls, que c'était Michael Jackson. En plus, Michael Jackson venait de mourir quand ils ont sorti dans ce coin-là. En tout cas.
Malade. Mais oui, fait qu'on peut s'amuser, mais à la limite, au moins, en avoir assez pour notre deck. Puis aussi, ça, mais la vie, ce que j'essayais de dire, c'est que c'est la responsabilité des deux joueurs de garder la vie. Fait que c'est pas juste de tenir ta propre vie. OK, je suis rendu à 7. C'est comme, il faut que tu communiques avec ton adversaire pour dire, OK, j'étais à 7, t'es à 8. Là, il fait, non, moi, j'étais à 11. Oh, OK. Voilà, on s'entend sur les... Parce que si le juge passe puis il remarque que vous n'avez pas les mêmes vies, il peut faire, attendez, là, qu'est-ce qui se passe ici? Là, c'est quoi l'état du jeu? Donc, c'est important que vous soyez conscient que c'est la responsabilité des deux joueurs de tenir à jour les points de vie. Puis la meilleure façon de faire ça, de tenir à jour les points de vie des deux joueurs, c'est de tenir ça par écrit. Donc, voilà. Arriver avec votre... tout le temps, de toute façon, il y en a toujours dans les... Oui, vas-y.
Les points de vie, quand vous écrivez, admettons, vos points de vie, si vous faites chier, admettons, vous perdez un point de vie, là, vous pouvez marquer 19, à côté de
Fetch,
total. Puis là, s'il faut que vous reveniez en arrière pour voir quoi les points de vie, c'est plus facile de voir qu'est-ce qui a causé la perte ou le gain de vie.
Ouais, c'est bon ça.
Ça peut être une façon, c'est F pour Fetch, A pour sur l'attaque.
Ouais, j'aime ça, je sais pas ça.
Jim Things, tu sais, des choses comme ça. Ça n'a pas besoin d'être un système compliqué, là. Juste une petite note sur, bon, ça c'était les lands, ça c'est sur l'attaque.
Ouais, déjà un bon départ. Déjà là, ouais, c'est déjà un très bon départ. Ouais.
Un oubli peut avoir été fait.
Ouais. Bon point, ça. Fait que ça, c'est des petites responsabilités qu'on a comme joueur, mais qui vont faire toute la différence dans le match, à mon avis. Là, parce que c'est des petites choses qui peuvent vraiment faire que tu vas perdre un match, littéralement, parce que t'as pas fait que le jeu se déroulait bien. Fait que, puis ça va
rendre... Ça peut aller jusqu'à la disqualification du tournoi. Là.
Ah ouais, c'est ça. On s'attend que nos joueurs, quand ils sont à un événement compétitif, soient quand même très responsables de leur, justement de ce dont le jeu s'attend d'eux. Puis ça, c'est une des choses. Donc, toutes les choses qu'on a dites depuis le début, je trouve que c'est des petits points, mais qui font quand même une différence en bout de ligne. Tu sais. C'est un joueur qui annonce ses triggers, qui annonce ses phases, qui tient bien la vie, qui a ses tokens, qui a des sleeves neuves. Déjà là, on s'entend que ça va bien. On est là pour un bon match, puis on a fait une bonne base. On a une bonne base là, pour ça. Par contre, aussi, il y a plein de données qui sont un peu propres à des tournois. Fait que si on est moins dans le match en tant que tel, bon, là, évidemment, il va y avoir le premier match. Ensuite, vous allez devoir faire un sideboard. vous allez et là, comme Renaud le disait tantôt, maintenant, ça pardonne un peu plus parce que, admettons que vous oubliez de sortir une carte de votre pile originale et que vous retrouvez avec 61 cartes. Maintenant, c'est plus, vous n'allez pas perdre un match pour ça. Donc, ça pardonne plus. Quand même, c'est bien d'être certain que on a exactement fait notre plan de sideboard pour nos match-ups. Ça, c'est un sujet dont on a traité. Donc, peut-être aller écouter cet épisode-là si jamais vous l'entendez quand on a parlé de sideboard. Mais soyez responsable pour vous assurer que vous avez sorti les cartes que vous vouliez sortir. Mais comme il y a moins d'enjeux, c'est peut-être moins grave de parler de ça. Et donc, c'est rebelote. On représente le deck, l'autre le brasse. On a toujours les mêmes 3 minutes. Et je dirais peut-être la dernière chose qui reste, c'est quand on arrive à la fin de la ronde et que là, parce que les matchs ont été longs et tout ça, on nous donne les fameux 5 tours. Comment gérer ça, les fameux 5 tours? Comment ça commence? Si, par exemple, c'est à moi de jouer et là, on nous dit « OK, 5 tours. Moi, je suis le tour 0, toi, tu es le tour 1, puis on se rend jusqu'à 5. C'est bien ça? »
Oui. OK. Le joueur actif finit son tour et puis après ça, il y a 5 tours supplémentaires.
5 tours supplémentaires, parfait. Et là, dans ces 5 tours-là, là, il n'y a plus de temps, c'est plus chronométré, mais ça ne veut pas dire non plus que vous devez éterniser la chose, donc justement de prendre votre temps, mais de quand même bien jouer.
C'est pas parce que c'est pas chronométré que vous devez que ça vous donne droit. Moi, j'en vois des joueurs, là, des fois, bon, ah, 5 tours, puis là, ils font comme, oh, OK, on a le temps, puis là, ils s'éparent
ouais,
dans leur chaise, là, puis là, ils se mettent à penser plus, là. Regarde.
Non, c'est ça, il y a un tournoi qui doit avancer.
Continuer la partie au même rythme qu'elle était avant les tours, là.
Oui, puis s'assurer de bien le tenir. Fait que quand à la minute le juge dit 5 tours, là vous faites « OK, je suis joueur actif, à ton tour, ça va être le tour 1, puis là, sortez un dé, puis là, ça, c'est le dé des tours, puis soyez bien communicatif pour être certain que ça, c'est vraiment bien suivi. Puis là, souvent, quand c'est le cas, il y a souvent un attroupement autour des dernières tables qui restent. Puis ça, souvent, les gens aident. Moi, c'est souvent ça que j'ai vu. Là. Les joueurs autour regardent puis tiennent compte des tours. Puis ça, je pense qu'il faut accepter ça. Là. C'est pas des joueurs qui viennent rentrer dans votre match puis veulent comme vous mettre de pression. Faites un peu fi de la pression que vous
en fait,
sentez quand ils sont là.
Personnellement,
mais moi, je pense qu'ils font...
Je pense que vous devriez pas...
Ah ouais, OK.
Intéressant. Pour les joueurs.
OK.
Parce que si vous avez mal interprété ou quoi que ce soit, que le tour était fini puis que vous changez le dé, ben là, ça peut mener à une confusion entre les deux joueurs. Là.
OK, mais parfait.
Pas de ça. Ça de toute façon, tu sais, ça pourrait être même... Tu sais, si c'est votre ami puis que y a une mauvaise interprétation du juge, là, ça pourrait même mener à outside assistance.
OK, ouais.
Perdre le match pour votre ami. Faites pas ça. Touchez pas au dé, laissez les joueurs s'arranger. Puis s'ils n'ont pas commencé à compter les tours ou quoi que ce soit, dites-le au juge. Demandez de faire comme un arrêt sur le match, demandez au juge, dites-le au juge, puis le juge va s'en occuper. Ça, c'est.
Okay. Bon point.
Ne pas intervenir dans un match de Magic, même s'il y a un attroupement, là. Quand il y a un attroupement, c'est encore pire. En plus, ça met de la pression sur les joueurs. Maintenant, ça se voit souvent qu'un dé va arriver là, de nulle part et qu'il va arriver sur la table, là, de la part d'un spectateur. Là.
Ouais.
Ça s'explique par le simple fait que les gens ont hâte que le match finisse.
C'est ça.
En même temps, je pense que les juges comprennent ça. Là, mais intervenez pas dans un match en cours, ça pourrait vous causer du trouble.
Donc, on laisse les joueurs s'arranger avec leur dé. Si on voit qu'il y a peut-être quelque chose que ça n'a pas avancé,
pas
on appelle
tours,
le juge.
Là, le juge, mais pas le faire.
Souvent, le juge est là.
C'est toujours mieux.
Ouais, ouais. Puis souvent, quand il reste, mettons, un ou deux matchs, le juge il est souvent plus
ouais,
proche. Puis, dans un événement comme un PPTQ, c'est plus petit, puis normalement, le juge n'est pas trop loin. C'est plus, mettons, un niveau des anciens PTQ ou Grand Prix que là. Ben là, c'est différent. Mais là, plus qu'on est au niveau de PPTQ, j'avoue que souvent, le juge va être plus proche. Puis d'ailleurs, c'est quand même fou qu'il y ait des jeux de niveau 2, là, ça serait peut-être un autre sujet, mais c'est des jeux de qualité normalement, donc on peut se fier à eux. Donc là, une fois que le match est terminé, si jamais... Là, comment ça fonctionne exactement quand... disons qu'il y a eu... La première personne a gagné un match. Mettons, moi, j'ai gagné j'ai gagné la première game. Notre deuxième, on se rend au temps, puis c'est nul. Fait que, mettons, moi, j'ai une victoire puis une nulle. Est-ce que je gagne la ronde? Comment ça fonctionne pour départager le gagnant? C'est quoi exactement ça?
T'as gagné
comprends
la
qu'on
première partie, puis que la deuxième va finir.
va autant, puis que c'est égal, on réussit pas
Ben,
à qu'il n'y ait personne qui
sinon,
gagne
tu
la
gagnes
deuxième.
le match.
Je gagne parce que j'ai une victoire, puis c'est tout. Si jamais c'est 1-1, ben là, rendu là, c'est nul, évidemment. OK, fait qu'une personne qui aurait une game, ça, j'étais pas certain de ça. Fait que, tu vois, c'est même bon pour moi, cet épisode-là. Fait que quand t'as une game, si ça va autant, ensuite, si c'est nul, c'est toi qui remportes le match. OK, parfait. Donc là, ça, c'est réglé. Là, ensuite, on a notre prochain adversaire, Rebelote. Et là, disons qu'on se rend, que ça va bien nos affaires, on avance dans le tournoi, qu'on réussit à se rendre avec un bon. On est conscient que par rapport aux autres, on est dans le haut. Là, il y a eu les derniers, mettons, pairings d'affichés, puis on est, je sais pas moi, cinquième, puis on joue contre quelqu'un qui est neuvième ou huitième, ou je sais pas exactement. Comment on fait pour un peu départager, de savoir c'est qui va avoir. Mettons, c'est quoi que ça prend comme fiche pour être certain de faire le top 8? Parce que c'est souvent quelque chose. Moi, je regarde beaucoup les événements, puis on
Ben,
voit
ça dépend
souvent.
de la grandeur.
On entend beaucoup, mettons, draw into top 8. Donc, les joueurs peuvent juste s'entendre pour dire on va faire une nulle. Même sans jouer, ils remplissent le coupon, dire oh, on a fait une nulle, et ça fait que les deux peuvent rentrer dans le top 8. Ça fait un peu partie de la culture de Magic, mais en même temps, c'est peut-être pas clair pour tout le monde. Puis, c'est quoi un peu tout cet aspect-là de décider de faire une nulle pour rentrer dans le top 8?
Ben, l'idée derrière ça, c'est que tu as une fiche qui est suffisante pour être déjà dans le top 8 s'il y a une nulle.
OK. Puis comment tu fais pour déterminer ça, pour être sûr, au juste que
Par ce fait-là, les deux joueurs qui sont assis un en face de l'autre prennent la décision de ne pas risquer de se retrouver en dehors du top 8 en décidant de faire une nulle intentionnelle. C'est tout à fait légal. Maintenant, pour déterminer ça, ben, faut voir comme le classement d'un tournoi en particulier, puis voir si c'est possible de le faire. Ça, il faut faire certains calculs, mais c'est pas très compliqué, là. C'est juste de voir qui pourrait gagner, puis avoir plus de points que soi. Un certain nombre de personnes maximum qui peuvent rentrer dans le top 8.
Fait que dans le fond, on regarde la meilleure fiche qu'une personne qui est en ce moment dehors du top 8, mettons, pourrait avoir. On va dire que c'est juste pas en points, n'importe quoi, 50 points, mettons. Puis moi, si je fais une
50 points,
nulle, je.
50, c'est beaucoup de points, là, mais admettons que 12 points. Là.
Ouais, 12
Mettons
points, là.
que tu as 12 points, ton adversaire a 12 points. Si vous gagnez, vous avez 13 points. Puis, peu importe le nombre de personnes qui gagnent, qui a 9 points en ce moment, tu sais, il n'y a pas de 10 points. Fait à 13 points, tu deviens comme. Il n'y a personne qui peut te rejoindre.
Ouais.
C'est nul, puis c'est fini là.
Puis ça, admettons là, mettons là, que ton adversaire dit hey, on peut faire une nulle puis aller dans le top 8 les deux, est-ce que tu es d'accord? Puis là, toi, t'as un peu peur, tu fais t'es-tu sûr? Parce que moi, il me semble, je suis pas trop sûr. Dans le fond, peux-tu faire un peu, je vais demander à quelqu'un de t'informer, ou bien c'est plus comme c'est sur à l'assis à la table, tu prends ta
Non, c'est la
décision?
responsabilité du joueur de regarder.
OK.
Une fois que vous êtes assis un en face de l'autre, les discussions se passent entre les deux joueurs.
Entre vous deux. OK. Fait que c'est un peu ta responsabilité quand tu sais que tu es proche du top 8 de faire OK, est-ce que je peux, avec le match-up que j'ai, est-ce que je peux faire une nulle avec
Oui,
top 8? Tu peux demander aux
avant
gens que tu
d'aller
connais.
voir son match, c'est important de regarder ici. Puis généralement, il y a un 2 minutes où est-ce que le classement est affiché. On peut voir le classement avant que les pairings soient affichés. Fait que ça laisse le temps de regarder, prendre une photo du classement,
Poser des questions.
les regarder les chiffres, aller voir quelqu'un qui connaît ça, dire est-ce que je peux faire une nulle? Dire ben oui, t'as 95% de chance de faire ta petite nulle, puis ou t'as 100% de chance, t'sais. Souvent
Ouais.
c'est ça. Des fois c'est risqué, des fois c'est pas certain à 100%.
Mais c'est
Prendre une
souvent t'as plus
chance,
de
des
pourcentage
fois.
que de jouer le match puis de perdre, là, tu sais.
Mais si t'es troisième, ton adversaire est quatrième. Et que t'as déjà mettons un tournoi de 5 rounds, là, je sais pas, là, puis t'as 9 points, là. Pas beaucoup d'autres joueurs qui vont finir avec plus que 10 points,
Oh,
là. À 10 points, tu devrais être
tu devrais être dans le top 8. Puis... OK. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond,
en
c'est
fait,
un peu ta responsabilité.
Plus que 8 joueurs en haut de 10 points.
Ouais, ouais. Puis ça m'apparaît, ça fait vraiment, ça a vraiment l'air de faire partie parce que tu es à tous les niveaux, là, autant au Pro Tour, Grand Prix, PTQ, ben là, et maintenant pré-PTQ, ça fait, c'est vraiment une partie intégrante, je pense, de Magic. Fait que ça m'apparaît être une responsabilité. Si vous sentez que vous êtes proche du top 8, que vous allez vraiment comme avoir des bonnes chances, regardez si c'est vrai que c'est possible. Puis normalement, si c'est vrai qu'en faisant nul, vous et votre adversaire, vous êtes sûr de rentrer, en tout cas, ça m'apparaît être vraiment la culture de comme accepter puis de faire oui, je le fais. Là. Même si tu dis ah oh, ouais, mais si je gagne.
Okay. Moi, j'ai vu une fois, j'ai vu un joueur qui a décidé volontairement de jouer, même mm-hmm. s'il pouvait faire une nul. Parce que s'il jouait, il faisait une place pour un de ses amis qui, si lui gagnait, pouvait finir huitième. Tu sais?
OK. Genre, il voulait donner une chance à un ami
ça
proche.
Ça a dû arriver un certain nombre de fois que des situations comme ça se présentent, mais c'est quand même assez rare. Généralement, ouais. les joueurs vont faire une nulle. Puis, encore plus si les joueurs, les deux joueurs se connaissent. S'il y en a un des deux qui décide de jouer, là, très ordinaire.
C'est pas gentil. Ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, si c'est vrai que vous pouvez faire top 8 avec une nulle, normalement, allez-y. Parce que de toute façon, tu sais, mettons, si vous dites, ouais, oh, mais si je gagne, je vais être premier ou deuxième, ouais, mais tu sais, je veux dire, oui, mais à Magic, on s'attend. C'est un peu une attente collective, c'est un peu une loi non écrite que quand c'est possible de faire un draw, puis draw and in, comme on appelle, normalement, à moins justement d'avoir une raison ben personnelle, faire regarde. Non, moi, si je sais que si juste un match-là, puis je peux gagner, ça fait rentrer un de mes très bons amis, je veux m'essayer, ben écoute.
Maintenant, il y a une autre situation. Il y a une situation où est-ce que les deux joueurs, même si là, c'est même si les, un des deux joueurs perd, il va encore être dans le top 8. Par exemple, des mm-hmm. 0. Là.
Ouais.
Mais là, vous pourriez jouer pour le, la première position dans une situation comme celle-là. Puis ça se joue ouais. quand même relativement souvent. Fait que c'est pas nécessairement pour s'assurer d'être dans le top 8. Des fois, il y a aussi une question là, pour. Mais généralement, s'il y a un risque que la personne qui perd se retrouve pas dans le top 8, les gens vont faire le deal.
Ouais, voilà. Donc ça fait partie un peu de l'éthique du top 8
ouais,
dans
ça.
Un tournoi compétitif. Ouais. Cool. Mais bon, des bons stocks, ça. Puis sinon, ben écoutez, après ça, dans le fond, si vous êtes rendu au top 8, là, après ça, ben, c'est la même chose qui s'applique. Je pense qu'on a fait vraiment un pas pire topo. Y a-t-il des choses que j'oublie? Une fois qu'on est rendu au top 8, là, que tout le monde est rendu là, c'est du Magic.
Ben, une autre chose, dans la journée en général, comme peu importe arriver avec 5 grosses une salle, s'installer pour attendre à côté d'un match en cours. Là.
Ordinaire. Effectivement.
Très ordinaire.
Ouais, mais ça, c'est d'être un être humain décent. Là. C'est pas que d'être un joueur de Magic préparé. Tu fais pas ça. C'est même trop chiant.
Mais c'est ça. Ouais, il y a beaucoup de choses que je pourrais nommer qui vont dans la catégorie être un être humain décent. Puis, probablement que si on les disait tous.
Genre, prendre ta
pas,
douche, mettre du déo.
On prendrait la prochaine journée, on se rendrait demain matin, puis.
C'est
on va peut-être pas faire le tour de tout ça, mais. Fait que je dis que celle-là, ça m'est arrivé. De voir
la poutine saucée sur le Jake.
Au lunch, qui sent beaucoup à côté de moi qui est en train de jouer et qui a faim, là.
Ouais, c'est pas cool. là, ben ça, parce que sinon, si on rentre plus dans les conseils du genre, ben, tu sais,
ouais,
beaucoup d'eau. Ouais, c'est ça. Sauf que, tu sais, je pense que c'est ça. Moi, je voulais que, mettons, parce que justement, tu sais, il y avait un. Bon, sur des forums de Magic, il y avait un joueur qui disait bon, qu'il était un peu de retour, puis il voulait voir un peu c'est quoi qui se passait sur la scène plus compétitive. Puis je me disais, ben, effectivement, là, il y a plein de monde qui reviennent à Magic. Ou, tu sais, comme mettons, moi, je viens d'un milieu où on joue entre amis à un certain niveau, sérieusement. Ça fait longtemps qu'on joue à Magic. Je veux dire, on joue avec des Lendub quand ils sortaient des paquets. Là, ça fait longtemps. Là. Puis, On connaît l'allemand, on connaît vraiment bien la game, mais quand tu arrives dans un environnement qui a comme une espèce de code non écrit d'attente, c'est toujours bon un peu de mettre ça, tu sais, de l'exprimer puis de dire, ben voici, ok, tu joues peut-être bien Magic, mais quand on arrive à un tournoi, il y a ça, 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 ça qu'il faut que tu aies fait, tu sais. Puis déjà là, je pense qu'on a fait quand même, on a touché, c'est un survol, c'est ça qu'on voulait cette semaine, on voulait un petit épisode, on n'a pas tant de temps que ça cette semaine, malheureusement, mais on a plein de beaux projets pour les prochaines semaines, mais je suis quand même très content qu'on puisse faire un portrait un peu de voici un joueur qui arrive préparé pour un tournoi, ça a l'air de quoi. T'sais. Donc, c'est cela.
Tout à fait. Et continuez de nous envoyer vos commentaires sur.
Ben oui.
Parce que ce sera l'objet probablement de notre prochain épisode, sinon l'autre d'après.
Oui, ouais, exactement. Un des deux. Puis...
on a déjà reçu des très beaux commentaires. Des commentaires constructifs, des commentaires très pertinents aussi.
Ben oui, oui, ouais, absolument. Puis tu sais, moi je suis content.
Ça va nous faire plaisir à ceux de ça de regrouper tout ça dans un épisode.
Ben oui, absolument. Puis tu sais, tu vois, tranquillement, on approche de la marque du 100 personnes qui aiment la page, la balado. Je dis, c'est un petit train va loin. Puis je trouve que ça, c'est peut-être quelque chose qu'on essaiera de mettre en valeur aussi, là, la participation de nos auditeurs à notre page Facebook ou autrement. D'ailleurs, par exemple, si jamais vous êtes un auditeur puis que vous avez Twitter puis que vous voulez m'ajouter, vous pouvez m'ajouter à Guillaume barre de soulignement BM101. Puis toi, Renaud, c'est ton Twitter.
Oh. Twitter?
Ouais.
R. Giraldo.
Excellent. On peut te voir à R. Giraldo. Puis que moi, tranquillement, j'essaie d'être un peu plus actif sur Twitter. Normalement, j'étais plus sur Facebook, mais je vais essayer tranquillement aussi d'être actif sur Twitter. Fait que si jamais vous voulez m'ajouter, ça me fait plaisir. Puis sinon, aussi, allez aimer la page La Balado sur Facebook. Là, c'est Balado Magic 101, le Balado québécoise. Je ne l'ai pas devant moi, le Balado québécoise de Magic. Donc, ça me fait plaisir de te revoir cette semaine, Renaud. Puis... écoutez, si jamais vous avez des idées aussi de thèmes que vous aimeriez qu'on aborde, plein de trucs, gênez-vous pas pour interagir sur notre page Facebook, ça va nous faire un énorme plaisir. Donc, sur ce, Renaud, je te dirais un au revoir, puis on se voit bientôt.
Oui.
Excellent. À okay, ben, ouais, à la prochaine. Bonne fin de rédaction, mon ami.
Merci.
All right, salut.
Oui.